Il n'est pas nécessaire d'être devin pour savoir que le mal sévit absolument partout dans le monde, au point où on pourrait le comparer à une pieuvre gigantesque qui aurait enserré la terre dans son étreinte et qui étendrait ses millions de tentacules dans toutes les directions et jusque dans les moindres recoins de la planète. Le mal, c'est la poisse qui nous colle à la peau et dont on ne peut pas s'extirper. Pour les non-croyants, le mal est une excuse toute faite pour rejeter l'idée d'un créateur aimant et bon. Pour les croyants, le mal est un défi permanent car ici-bas, il restera un ennemi toujours présent. L'homme demande « Mais où donc est Dieu et que fait-il ? » Habacuc, qui était un prophète authentique de l'Éternel, ne comprenait pas pourquoi Dieu n'intervenait pas pour punir ceux qui faisaient le mal en toute impunité. Il écrit « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi à la violence sans que tu nous délivres ? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices ? Peux-tu rester indifférent à nos tourments ? Je ne vois devant moi que ravages et violences. Il y a des querelles et des conflits surgissent. L'Éternel a entendu son cri et lui a montré ce qu'il avait prévu dans la suite des temps. » La prophétie de Sophonie est aussi une réponse à la prière d'Habacuc. Je continue à lire dans le premier chapitre du livre de Sophonie. « En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des torches et je châtirai tous les hommes qui se reposent sur leurs réserves, comme un vin sur la lie, se disant en eux-mêmes que l'Éternel ne fait ni du bien ni du mal. Leurs richesses seront pillées, leurs maisons dévastées. Ils auront bâti des demeures, mais ils n'y habiteront pas. Ils auront planté des vignobles, mais ils n'en boiront pas le vin. » Versets 12 et 13. Dans la loi de Moïse, il est écrit qu'avant que les Israélites partent au combat, les officiers s'adresseront aux soldats en ces termes. « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui vient de bâtir une maison et n'y a pas encore habité, qu'il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre n'y habite pas le premier ? L'un d'entre vous a-t-il planté une vigne et n'en a pas encore cueilli les premiers fruits ? Qu'il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre ne recueille pas les premiers fruits de sa vigne. Y a-t-il quelqu'un qui se soit fiancé et qui n'ait pas encore épousé sa fiancée, qu'il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre n'épouse pas sa fiancée ? » Cependant, Sophonie dit que c'est exactement le contraire qui va se produire. Ceux qui auront bâti de belles maisons et planté des vignes n'en profiteront pas. Toutes les richesses dans lesquelles ils ont mis leur confiance seront la proie des Chaldéens. Quand ils les verront disparaître, pillés par leurs ennemis, ils sauront que l'Éternel étend son règne jusque dans les affaires des hommes et que les menaces qu'ils profèrent ne sont pas vaines. En cas de rébellion contre Dieu, la loi de Moïse avait prévu une longue liste de malédictions. Je lis un passage. « Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Si quelqu'un bâtit une maison, il ne s'y installera pas. S'il plante une vigne, il n'en recueillera pas les fruits. Vos bœufs seront abattus sous vos yeux et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous et ne vous seront jamais restitués. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis, et personne ne viendra à votre secours. Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger. » Le prophète Michée avait déjà averti les habitants de Jérusalem, disant « Vous sèmerez sans pouvoir moissonner, vous presserez l'olive, mais sans vous frotter d'huile, vous foulerez les grappes sans en boire le vin. » Ce châtiment était déjà tombé sur les Israélites du royaume des 10 tribus du Nord. Le prophète Amos l'avait prophétisé leur disant « Puisque vous exploitez le pauvre et que vous lui prenez du blé de sa récolte, à cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas, Ces vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne boirez pas de leur vin. Comme les Israélites du Nord n'ont ni obéi à la loi, ni écouté les prophètes que l'Éternel leur envoyait, le jugement de Dieu a déferlé sur eux, vague sur vague. Le même châtiment attend le royaume israélite du Sud. Je continue le texte de Sophonie. Car voici qu'il est proche le jour de l'Éternel. Oui, ce grand jour est proche, il arrive à grands pas. Ô clameur amère du jour de l'Éternel, le guerrier le plus brave poussera de grands cris. Verset 14. Après avoir désigné ceux qui seraient les victimes du jugement à venir, Sophonie répète ce qu'il a déjà dit, que le jour de l'Éternel est proche. Dans les deux versets, le mot « proche » est au début de la phrase afin de le mettre en valeur. En fait, le jour de l'Éternel est tellement proche qu'on perçoit déjà la clameur de sa venue. Quand Sophonie écrit sa prophétie, le jugement de Juda était très proche parce que Josias fut le dernier des rois de Juda qui eut à cœur d'obéir à l'Éternel. Ses fils après lui furent tous mauvais et corrompus. En 605 avant Jésus-Christ, approximativement 25 ans après les oracles de Sophonie, Jéhoiakim, roi de Juda, devint vassal de Babylone et beaucoup de jeunes gens du royaume furent déportés. 8 ans plus tard, en 597, sous le règne de Jéhoiakim, Jérusalem fut assiégée par Nabuchodonosor et au moins 10 000 Juifs furent déportés. Enfin, 10 ans plus tard, sous le règne de Sédécias, la ville sainte fut à nouveau assiégée, cette fois-ci entièrement détruite. Quand ce jugement frappera Juda, il sera tellement terrible que même le soldat le plus aguerri sera pris de panique et poussera des cris de désespoir. Je continue le texte. En effet, ce jour-là est un jour de colère, c'est un jour de détresse et de malheur, un jour de destruction et de désolation, un jour d'obscurité et d'épaisses ténèbres, c'est un jour de nuages et de brouillards épais. Verset 15. Dans ce passage, il est question de la colère de l'Éternel et de son effet, d'abord sur les hommes, puis sur leurs possessions et enfin sur la nature. Le prophète Amos écrit « Soyez-en sûrs, le jour de l'Éternel sera jour de ténèbres et non pas de lumière. Oui, ce sera un jour d'obscurité profonde, sans aucune clarté. » Littéralement, Sophonie dit « Jour de fureur, ce jour-là ». En latin, « jour de fureur » est le titre d'un célèbre chant apocalyptique écrit à la fin du XIIe siècle sur le thème de la colère de Dieu et du jugement dernier. Il est rattaché au texte liturgique catholique de la messe de Requiem. Verdi et Mozart ont aussi composé une musique qui exprime ce jour de fureur et l'ont incorporé dans leur Requiem respectif. À partir d'ici, chaque fois que Sophonie va dépeindre l'horreur du jour de l'Éternel, il va accumuler les expressions les plus énergiques que possède la langue hébreu. Ici, il utilise les mots colère, détresse, malheur, destruction, désolation, obscurité, épaisse ténèbres, nuages et brouillards et paix. Quand les hordes chaldéennes ont pénétré dans Jérusalem pour conquérir, tuer et piller, les habitants étaient réellement dans la plus grande détresse et le ciel était obscurci à cause de la fumée des maisons en feu. Sophonie agrémente aussi sa description du jour de l'Éternel en s'inspirant des paroles des prophètes Ésaïe et Joël. Je les cite. « Poussez donc des cris de détresse, car il se rapproche à grands pas le jour de l'Éternel comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous les bras s'affaibliront et tout le monde perdra courage. Ils seront frappés d'épouvante, l'angoisse s'emparera d'eux. Ils seront saisis de douleur comme une femme qui enfante. Ils se regarderont avec stupeur les uns les autres, le visage embrasé. » Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Hélas, quel jour! Le jour de l'Éternel approche, comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant, il va venir. Tremblez, vous tous, habitants du pays, car il arrive, le jour de l'Éternel, il est tout proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, c'est un jour de nuages et de nuées épaisses. Fin de citation. Je continue le texte de Sophonie. Jour où retentiront la sonnerie du cor et des clameurs de guerre contre les villes fortes et les hautes tours d'angle. Verset 16. Chez les Juifs, la sonnerie des trompettes annonçait les fêtes. Elle sonnait l'alarme en cas d'attaque ennemie, ainsi que le signal d'aller au combat. Dans la loi, l'Éternel dit, « Lorsque vous serez installés dans votre pays et que vous partirez en guerre contre un agresseur, vous ferez retentir un signal éclatant de vos trompettes. Ainsi, vous vous rappellerez à l'attention de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. » Mais maintenant, l'Éternel a l'intention de faire exactement le contraire. Ce sont les trompettes des Chaldéens qui retentiront et donneront le signal de détruire Jérusalem, car c'est à l'ennemi que Dieu donnera la victoire contre son peuple. Même les villes les mieux défendues seront la proie des Chaldéens et les hautes tours d'angle, les endroits les plus fortifiés, tomberont sous les coups de l'ennemi. Ce sera l'accomplissement de l'une des malédictions que Moïse avait adressées au peuple. Je la lis. Ils assiégeront vos villes jusqu'à ce que s'écroulent dans tout votre territoire les hautes murailles fortifiées dans lesquelles vous aurez mis votre confiance. Ils assiégeront toutes les villes du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Je continue le texte de Sophonie. Je plongerai les hommes dans la détresse et comme des aveugles, ils marcheront en tâtonnant. Parce qu'ils ont péché contre moi, l'Éternel, leur sang sera versé comme de la poussière, et comme des ordures, leurs corps seront jetés. Verset 17. Ce verset est du genre très brutal, surtout que la phrase « leurs corps seront jetés » peut aussi être traduite par « leurs entrailles seront répandues ». Les habitants hagards et terrorisés ne sauront où aller pour échapper à leurs ennemis. Ils ne trouveront aucun refuge et leur sang sera répandu comme si c'était de la vulgaire poussière sans valeur dont on se débarrasse. Concernant la destruction de Jérusalem, le psalmiste écrit « Ô Dieu, les nations sont entrées dans ton héritage, elles ont profané le temple de ta sainteté, elles ont mis Jérusalem en ruine, elles ont donné les corps de tes serviteurs en pâture aux oiseaux des cieux. » La chair de tes bien-aimés aux bêtes de la terre. Elles ont répandu leur sang comme l'eau à l'entour de Jérusalem sans qu'il y eût personne pour les ensevelir. Une fois encore, nous sommes face au mal que nous regardons droit dans les yeux. Même si nous en connaissons l'origine, c'est un mystère que nous ne comprenons pas. Pourtant, Dieu n'est pas cruel car ce n'est pas dans sa nature. Cependant, sa sainteté et son sens de la justice l'obligent à punir et à extirper le péché partout où il se trouve, un peu comme un chirurgien scie, coupe, racle et taille dans un corps afin d'en extraire toutes les tumeurs cancéreuses. Ensuite, on administre au patient un poison aussi violent que le gaz moutarde, puis on le brûle avec divers rayons. On lui fait les pires misères, comme dans un film d'horreur. Tout ça fait très mal, mais c'est nécessaire et pour le bien du malade. Il ne faut pas se voiler la face. Dieu est obligé de juger le péché, tout péché, mon péché, et j'ai des métastases partout de la tête aux pieds, et toi aussi. Alors, comment peut-on croire qu'une petite cérémonie avec de l'eau bénite, un peu d'encens et le tout accompagné de quelques bonnes paroles à l'eau de rose puisse effacer la putréfaction du péché? Non, seul le sang du Christ a le pouvoir de faire disparaître cette pourriture qui nous colle à la peau ou plutôt au cœur. Je finis le chapitre premier du livre de Sophonie. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel, lorsqu'il consumera la terre tout entière, par le feu de son amour bafoué, car il provoquera, et ce sera épouvantable, la destruction totale de tous ceux qui habitent sur la terre. Verset 18. Sophonie termine sa description du châtiment à venir du royaume de Juda en l'élargissant à toute la terre. C'est aussi en annonçant un jugement universel qu'il a commencé sa prophétie disant « Je vais tout balayer de la surface de la terre, l'Éternel le déclare ». Si Dieu manifeste ainsi sa colère, c'est parce qu'il refuse que l'honneur et la dévotion qui lui sont dus soient attribués à un autre, c'est-à-dire aux idoles, quelles qu'elles soient. Le jour du jugement, les richesses ne servent à rien car l'ennemi ne pourra pas être acheté. Cette vérité est illustrée par les Mèdes, qui ont tout d'abord été alliés aux Chaldéens pour mettre fin à l'empire assyrien. Mais plus tard, ils se sont rangés aux côtés des Perses pour détruire Babylone. Par son prophète, l'Éternel dit « Je vais susciter contre les Chaldéens les Mèdes, qui ne font pas cas de l'argent et qui font fi de l'or. » Parlant des richesses des habitants de Jérusalem, le prophète Ézéchiel écrit « Ils jetteront dehors leur argent dans les rues et considéreront leur or comme souillé, car ni l'argent ni l'or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel, ni apaiser leur faim. Ils ne satisferont aucun de leurs désirs, car c'est l'argent et l'or qui les ont fait tomber dans le péché. Ils ont mis leur orgueil dans leur parure magnifique, et ils s'en sont servis pour fabriquer des idoles abominables et exécrables. C'est pourquoi tout cela je le rendrai impur. Je le donnerai à des étrangers pour qu'ils le pillent, comme butin aux méchants de la terre qui viendront souiller tout cela. » Après avoir décrit le jour de l'Éternel grand et terrible qui verra la destruction totale du royaume de Juda en tant que nation, Sophonie amène finalement ses auditeurs à écouter ce qu'il veut qu'ils fassent. En effet, le but du prophète n'est pas de terroriser et de conduire ses contemporains au désespoir, mais de les inciter à se repentir de leurs fautes et à obéir à la loi de leur Dieu. Je commence à lire le chapitre 2. « Rassemblez-vous, regroupez-vous, ô vous gens sans vergogne !» Verset 1. L'expression traduite par « gens sans vergogne » est insultante parce que le mot pour « gens » était un terme méprisant qui désignait les païens. C'est dire ce que Dieu pense des Israélites. Pourtant, l'Éternel aime son peuple et désire toujours être son Dieu. Mais ces gens le répugnent car ils sont abominables à cause de leurs fautes, de leur insensibilité au péché et de l'absence de toute honte malgré leur état spirituel délabré. Les habitants de Jérusalem, en particulier, étaient descendus au même niveau que les païens, voire plus bas encore, mais ils ne se sentaient pas gênés le moins du monde. En fait, ils étaient satisfaits de leurs présentes conditions et n'aspiraient à rien d'autre. Cependant, Sophonie lance un appel au pays tout entier, et surtout à Jérusalem. Il demande à tous de se rassembler en masse devant le temple et d'invoquer Dieu dans un acte de repentance nationale. C'est le dernier appel, car une fois le portique fermé, le prochain départ est pour la destruction. C'est la dernière opportunité de se soumettre à Dieu et à sa loi, après quoi, place au châtiment terrible qui a été décrit. Je continue le texte. « Repentez-vous, gens sans vergogne, avant que le décret soit émis et que le jour de l'Éternel passe comme la balle au vent, avant que vienne sur vous le jour de la colère de l'Éternel. » Verset 2. C'est l'état d'urgence. La situation est très grave. Ce que le prophète souligne en répétant trois fois « avant que ». Lors de la prédication du prophète Jonas, la ville de Ninive a tout de suite compris quels étaient les enjeux et du plus petit au plus grand, tous ont pris le sac et la cendre en signe de repentance. Il est impératif que le royaume de Juda fasse de même et s'humilie, car le jour de la colère de l'Éternel se rapproche rapidement. Si les Israélites persistent dans leur rébellion et ne se repentent pas, alors, aussi facilement et aussi vite que le vent emmène la balle du grain battu, le jour du jugement passera en un instant. Comme un terrible ouragan, rien ne pourra l'arrêter dans sa course et il ne laissera derrière lui que désolation et destruction. Heureusement, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Un prophète écrit « Venez, discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. »